Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du livre de l'Apocalypse. Dans notre étude de l'Apocalypse, nous sommes au chapitre 2, où nous avons commencé à considérer une série de courtes lettres que le Seigneur Jésus a adressé à chacune des sept églises dans la province romaine que l'on appelait l'Asie, ces églises que les empereurs romains voulaient détruire. Le but général de ces lettres était d'encourager, réconforter et fortifier les églises. Mais Jésus se présente parmi les églises aussi pour inspecter, pour avertir et pour préparer en vue de la bataille spirituelle qui s'engageait avec l'Empire romain. Il ne faudrait pas que les églises se présentent à l'épreuve dans un état de faiblesse spirituelle. Elles avaient besoin donc de s'examiner. Nous avons déjà considéré le message destiné à l'église d'Éphèse, une assemblée que le Seigneur a louée pour sa fidélité à la vérité, mais à laquelle il a reproché un refroidissement dans son amour. Nous avons étudié également le cas de l'église de Smyrne. Jésus n'a pas appelé cette assemblée à la repentance, mais il a exhorté simplement à persévérer et ne pas avoir peur de la souffrance qu'elle devait supporter. La récompense pour la fidélité serait grande. Aujourd'hui, nous poursuivons avec les épîtres que le livre d'Apocalypse contient pour les églises des villes de Pergame et Thyatire. Pergame n'était pas la ville la plus grande ni la plus importante du point de vue du commerce, mais c'était la capitale de la province de l'Asie. La ville se distinguait aussi par sa bibliothèque célèbre, qui comptait plus de 200 000 livres. C'était à Pergame que le parchemin fut inventé. Pergame était réputée également comme une capitale du paganisme, à cause du grand nombre de ses temples païens, y compris celui du serpent à Asclepius, un dieu de guérison. C'était un grand centre de pèlerinage pour les malades. La ville était aussi un centre pour le culte de l'empereur, ayant été la première ville dans la province à consacrer un temple à la personne de l'empereur, en 29 avant Jésus-Christ. Jésus reconnut que la situation était difficile pour l'église de Pergame. Il dit « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan ». Il veut dire probablement que c'est là où était le siège provincial du gouvernement romain et du culte de l'empereur. Cette assemblée était déjà l'objet de plus de pression que les autres, étant apparemment la seule à avoir vu l'un de ses membres mourir pour sa foi. Malgré le martyre du frère Antipas, l'Église restait fidèle. Les autres membres n'avaient pas renié le Seigneur par peur de subir le même sort. Jésus les félicite pour cela. Cependant, il avait quelque chose contre l'assemblée. Elle permettait à certains membres d'enseigner de la fausse doctrine. Cette doctrine faisait penser à Balaam, un prophète inspiré, mais amoureux de l'argent que le roi Balak avait engagé pour maudire les Israélites, en Nombre chapitre 22 à 24. Dieu ne permet pas à Balaam de les maudire, mais grâce à son conseil, les Israélites furent affaiblis par le péché. Il semble que Balaam avait dit à Balak d'envoyer des femmes pour inviter les Israélites à participer à l'adoration de leurs idoles au moyen des sacrifices et de la débauche. Nombre chapitre 25, versets 1 à 5 et chapitre 31, verset 16. Ceux de Pergame encourageaient les mêmes fautes, la participation aux sacrifices et aux péchés sexuels des païens. Contrairement à ce que dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 10, verset 21, les Balaamites disaient que l'on peut manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Il y avait aussi des membres à Pergame qui s'attachaient à la fausse doctrine des Nicolaïtes. Face à ces faux docteurs, l'église de Pergame était trop tolérante. Elle ne faisait pas de reproches et ne pensait certainement pas à se retirer de ses membres qui mettaient l'assemblée en danger par leurs enseignements. Comme l'église de Corinthe, celle de Pergame avait besoin de voir son devoir d'exercer la discipline, vu le fait que « un peu de levain fait lever toute la pâte » (1 Corinthiens 5, verset 6). Si l'église d'Éphèse, peut-être dans son souci de sauvegarder la pureté de l'église et de son enseignement, n'avait plus l'amour qu'il fallait, alors l'église de Pergame, peut-être dans le souci de montrer l'amour fraternel, la patience et la tolérance, avait sacrifié la saine doctrine. En effet, les chrétiens ont souvent la tendance à être trop rigoureux où on a besoin de tolérance, par exemple dans les opinions privées, et à être trop tolérant où on a besoin d'être ferme, c'est-à-dire les questions de foi et de moralité. Le Seigneur dit à cette église de se repentir d'avoir négligé la discipline et permis aux faux docteurs de conduire certains membres dans le péché. S'il n'y avait pas de changement, Jésus viendrait combattre les coupables. Pour celui qui le sert fidèlement, par contre, il promet la manne cachée. Comme Dieu avait nourri les Israélites dans le désert après leur délivrance de l'Égypte et avant qu'ils ne trouvent le repos en Canaan, le Seigneur promet de nourrir spirituellement, de soutenir ses serviteurs dans leur pèlerinage. Thyatire était la plus petite des sept villes mentionnées dans ces chapitres. Elle avait été établie pour loger des troupes qui devaient garder l'accès à la ville de Pergame, la capitale, afin de la protéger. Son rôle, en cas d'attaque, serait de tenir bon et retarder l'ennemi jusqu'à ce que le pays ait le temps de se mobiliser. Avec la Pax Romana, la paix qui existait parce que Rome dominait tous les peuples, y compris les ennemis potentiels, la ville avait perdu son importance militaire. Au temps où l'Apocalypse fut écrit, la ville de Thyatire vivait plutôt de l'artisanat. Il y avait de nombreuses associations de métiers, des teinturiers, des tisserands, des forgerons, etc. L'appartenance à ces guildes professionnelles qui dominaient la ville économique de Thyatire exigeait le plus souvent une participation à des banquets où l'on célébrait des rites païens en honneur de leur dieu et où l'on commettait toutes sortes de péchés sexuels. Refuser de prendre des repas à l'honneur de ces idoles, c'était accepter d'être isolé socialement et de souffrir économiquement. Il y avait de quoi louer l'église de Thyatire. Cette assemblée continuait de grandir spirituellement. Jésus ne peut que remarquer avec plaisir ses œuvres, son amour, sa foi et son fidèle service. Le problème dans l'assemblée concerne une certaine femme méchante et son influence. Cette femme est identifiée, sûrement pas par son vrai nom, mais par un nom qui évoque son caractère et son activité, le nom de Jézabel. Cette femme, dans l'Ancien Testament, l'épouse du roi Achab, exciter son mari et tout Israël à se donner au culte du faux dieu Baal et à commettre toute espèce d'injustice. La Jézabel de Thyatire, pareillement, séduisait les serviteurs de Dieu pour qu'ils commettent l'impudicité et pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ces 10 ans prophétesses, guidées par l'Esprit de Dieu, comme beaucoup de faux docteurs le prétendent de nos jours d'ailleurs, elle enseignait une doctrine de compromis. Accomplir ses obligations sociales et professionnelles, c'est-à-dire participer au festin idolâtre et à la débauche, était permis, selon elle, tant que l'on participait également à l'adoration du Christ. Le péché de l'Église consistait à ne pas répudier cette femme qui égarait les chrétiens. Pour cette femme, le temps de grâce était déjà passé, et elle ne s'était pas repentie. Trop souvent, on prend la patience de Dieu pour l'indifférence. Jézabel allait voir que le Seigneur n'était pas indifférent à l'égard de son péché. L'impudicité dont elle ne voulait pas se repentir était l'infidélité spirituelle envers Jésus, de vrais actes de fornication ou les deux à la fois. Jésus menace de la punir lui-même, Un lit de souffrance remplacera le lit où elle commettait l'adultère. Ses disciples aussi sont menacés de mort à moins qu'ils ne se repentent. Comme pour les autres églises, Jésus donna également des promesses pour ceux de Thyatire qui seraient vainqueurs. Premièrement, il leur promet autorité sur les nations. Ils participeraient à son pouvoir sur elles. Ils régneraient avec lui. Ce règne est décrit comme une réalité présente dans plusieurs passages. Mais dans quel sens peut-on dire que les chrétiens règnent avec Jésus? Il semble souvent qu'au lieu de régner, ils sont tout simplement opprimés. Les chrétiens règnent avec Jésus par la prière. Quelle puissance est à la disposition des chrétiens? Par la prière, l'Église peut demander à Dieu d'intervenir dans les affaires des nations en faveur de son peuple, pour qu'ils vivent dans la paix, pour que des portes soient ouvertes pour l'annonce de l'Évangile, pour que Dieu fasse tomber des jugements contre les nations méchantes, pour influencer le moment exact des interventions de Dieu dans l'histoire. Les chrétiens règnent avec Jésus par la providence de Dieu. L'Éternel agit pour conduire toutes choses et surtout pour bénir spirituellement et physiquement ses fidèles. Il dispose de toutes les ressources du monde entier et s'en sert pour pourvoir aux besoins des siens. Selon Romains 8, verset 28, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime.